Et je donne tout de suite la parole à Christian.
Bonjour. Alors, le nouveau monde industriel, selon Fourier. C'est mieux comme ça? D'accord. Le nouveau monde industriel, selon Fourier, est un jardin. Alors pourquoi Fourier? Ben, c'est une question de terreau, peut-être d'abord, on va dire ça comme ça, puisque nous sommes en Franche-Comté sur une terre d'inventeurs sociaux et pas d'utopistes. J'espère que je pourrai vous le faire comprendre dans cet exposé. Alors un petit éclaircissement est sans doute nécessaire. On ne cesse pas de le dire, la Franche-Comté est le pays des fruitières. Mais alors, d'accord, mais qu'est-ce qu'une fruitière? Eh bien, je dirais d'abord, une fruitière est une invention sociale qui existe depuis le XIIe siècle. Les paysans n'ont pas inventé un fromage, ni une manière de faire du fromage. Ils ont inventé une organisation sociale qui permet de fabriquer un fromage collectivement. Alors que ces petits producteurs laitiers ne pouvaient pas en fabriquer s'ils restaient chacun isolé et s'ils produisaient chacun pour soi. Alors, ça a permis une certaine prospérité des éleveurs, malgré les guerres, malgré tout ce qui s'est passé pendant la conquête française notamment. Et on peut dire que cette pratique a marqué durablement la culture locale. Nous y réfléchissons, alors Dominique, Sylvie Guigon, Florent et moi, on réfléchit au mode de transmission des patterns de cette culture sociétaire. Ce serait peut-être bien qu'on parle de culture sociétaire. Et cette culture sociétaire s'est transmise au fil des siècles. Elle est passée à d'autres champs d'activité, par exemple le champ de la banque. Elle est allée s'installer sur d'autres territoires, par exemple à Guise, avec le familistère de Gaudin. Et on peut dire que cette culture sociétaire a indéniablement marqué l'affaire Lip et la création des jardins de cocagne, dont je vous rappelle quand même que les premiers se sont installés en banlieue de Besançon. Alors, Fourier et ses disciples, on ne parlera pas des disciples aujourd'hui, ils interviennent directement à différents moments de cette transmission. Et Fourier mérite tout particulièrement peut-être d'être mentionné en ouverture d'une journée de travail sur le thème d'habiter la transition pour deux raisons. Alors la première, c'est que dès ses premiers livres qui sont édités en 1808, il rejette totalement l'héritage de la Révolution. Pourquoi? Parce que la Révolution a mis la bourgeoisie à la place de la noblesse sans qu'on gagne véritablement au change. Pire, elle a renforcé le caractère corrupteur du commerce. Et Fourier, depuis qu'il est enfant, a déclaré une guerre, dit-il, dès qu'il a eu 7 ans. C'est au commerce. Pour lui, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Voilà. Donc, la Révolution française, finalement, a renforcé le pire régime social qui soit, que Fourier appelle la civilisation. Alors, la civilisation, chez Fourier, c'est synonyme de mal absolu. Il faut le savoir, vous allez le voir peut-être à travers mon exposé. Alors, la civilisation, effectivement, c'est la moins harmonique des formes de vie sociale. Celle dans laquelle les hommes se déchirent et se coupent de la nature. La vie civilisée est une guerre de tous contre tous. Le médecin veut des malades, le riche veut des pauvres à exploiter. Et c'est aussi, on va y revenir tout au long de ce que je vais vous raconter, c'est aussi une coupure avec la nature qui est exploitée et empoisonnée. La Révolution n'a été qu'une violence. Elle est synonyme de terreur et de ruine. Il ne faut donc pas faire de révolution. Il faut lui préférer la subversion. Et la question qu'on peut se poser, évidemment, ici, c'est est-ce que la transition peut être une subversion? Sera-t-elle une subversion? Alors, je vous donne une idée de comment ça se présente chez Fourier. Il y a des tas de choses dont je ne parlerai pas. Les fouriéristes, s'il y en a dans la salle, ils vont être très fâchés contre moi parce que je vais zapper plein de choses. Et je dis quand même une chose qui est très belle. Fourier ne cesse de dire, dès 1808, qu'au lieu d'abolir la royauté, de couper plein de têtes, on aurait mieux fait d'abolir le mariage pour libérer les femmes qui sont les plus grandes victimes de l'ordre bourgeois. Je vous rappelle ça. L'extension des privilèges des femmes est le principe de tous les progrès sociaux. L'extension des privilèges des femmes est le principe de tous les progrès sociaux. Il écrit ça en 1808 dans un ouvrage qui s'appelle « La théorie des quatre mouvements ». Alors, la deuxième raison pourquoi on peut parler de lui à propos de la transition, c'est qu'il décrit essentiellement, quand il nous parle de la période harmonienne qui devrait venir, qu'il appelle de ses voeux, qu'il invite ses disciples à réaliser, eh bien, cette période qui va venir, même s'il en parle en disant que c'est un nouveau monde industriel, eh bien, en fait, cette période elle est essentiellement agricole. Fourier nous décrit sans arrêt, autour du phalanstère, la vie d'un jardin. Donc le nouveau monde industriel, c'est le titre par exemple d'un de ses ouvrages, il est un peu faux, c'est le nouveau monde, du jardin, bref. Alors, que se passe-t-il dans ce monde, entouré de jardins? Alors les Arméniens se passionnent pour leur travail et le travail devient attrayant. Dans la civilisation, le travail est répugnant. Quand on passe dans le monde arménien, il n'est plus répugnant, il devient attrayant. Et qu'est-ce que c'est que ce travail attrayant? Eh bien, ce travail attrayant consiste à préparer des fêtes et à participer à des activités agricoles. Notamment, c'est très intéressant, il n'y a pas de différence entre cultiver des fleurs, des fruits, des légumes, etc. Pouvoir déployer sa passion pour l'arrosage des jonquilles à peine écloses, c'est mieux que de faire la révolution. Voilà l'idée de Fourier. En fait, ça permet de s'intégrer à un groupe passionné par la culture des jonquilles, par exemple. En occupant une place importante dans la décoloration du phalanstère, cela permet de se lier avec celui qui va prendre soin des bulbes. Bref, comment en arrive-t-on là? Drôle d'idée. Plein de gens, quand ils ont lu Fourier, ont pensé qu'il délirait, qu'il racontait n'importe quoi, et notamment ce jardin qui entoure le phalanstère, ça les a beaucoup inquiétés, à tous ces socialistes très sérieux du 19e, et un grand nombre de ses disciples ont essayé d'atténuer ce qu'il leur racontait. Alors, reprenons. La civilisation est une guerre de tous contre tous et une guerre de tous contre la nature. Nous ne sommes plus au monde, à force de nous couper de tous et de tout. Et cela rend le monde entier incohérent. Nous ne sommes pas dans un cosmos, nous sommes dans un chaos. Cela se constate notamment dans le dérèglement, dérèglement du climat. Fourier, il écrit avec la langue de son temps, c'est très beau, il parle du dérèglement des climatures. Donc, sur lequel je reviendrai un petit peu après. Alors, cela se constate dans nos relations à un simple fruit, comme le melon. Alors, vous savez, le melon est accusé d'être trompeur. On s'est tous fait avoir en achetant des melons. On est tombé chaque fois, au moins une fois, sur un melon qui n'était pas bon, même s'il était très beau, qui sentait bon, mais c'était une vraie courge, etc. Eh bien, Fourier nous dit ça. En fait, les melons ne sont pas intrinsèquement trompeurs. C'est la manière dont elle est répartie qui les rend telles. Intégrées dans d'autres distributions sociales, ils possèdent d'autres qualités. Qu'on les sonde, qu'on les goûte, qu'on les classe, qu'on les distribue selon leur saveur entre les tables des gourmets, celles des enfants, qu'on donne les plus fades aux animaux, et personne ne sera trompé. Le melon savouré par les gastrosophes arméniens n'est plus celui que manipulent les commerçants après les avoir soustraits au réseau dans lequel il devrait être inséré. Ce fruit est un être collectif, lié à de nombreux autres objets, de nombreux animaux, de non moins nombreuses personnes. En fait, les civilisés ne sont pas dupés par les melons eux-mêmes, mais par leur système de distribution commerciale. C'est le commerce qui détourne, qui accapare les biens produits par l'industrie et qui désintègre les choses et les individus. Il faut bien comprendre, désintègre, qu'il les sort de leur intégration. Hein. Réduit à lui-même, hors de ses connexions, tout être voit ses qualités amoindries, car il ne peut pas les déployer, et il ne peut les déployer qu'en réseau. Alors c'est ce qui est important, et c'est ce que font les jardins qui entourent le phalanstère, d'après Fourier. Alors, raz-de-marée, melon trompeur, Fourier s'amuse, il joue sur des dimensions différentes. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit? L'état du monde reflète celui de nos passions. La civilisation s'oppose aux passions telles qu'elles devraient être et telles qu'elles devraient nous conduire à l'harmonie selon les plans de Dieu. Je signale au passage, Fourier est radicalement providentialiste. Hein. Réprimer, lui, il dit engorger, les passions tournent au mal, un peu comme un bon vin tournerait au vinaigre. En fait, les passions mènent l'harmonie et les passions s'expriment pleinement dans le jardin. Trois d'entre elles doivent être retenues, plus que les autres. Fourier les nomme les mécanisantes. Alors, ce sont la papillonne. La papillonne, c'est le fait qu'on reste jamais... au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est-à-dire, au bout d'un moment, là, normalement, vous allez commencer à vous ennuyer sérieusement et vous devriez faire autre chose, dit Fourier. La cabaliste, la passion des petites intrigues. Et puis, la composite, c'est le fait d'avoir plusieurs plaisirs en même temps. Par exemple, à midi, on va dans un bon restaurant et en mangeant une bonne nourriture, nous allons avoir de bonnes discussions, etc. Je vais revenir sur l'une de ces passions. La cabaliste. La cabaliste permet une émulation entre des groupes de passionnés très proches. Et par exemple, il nous dit ça permet de créer une tension entre des cultivateurs de poires. Pas tous les cultivateurs de poires, non. Entre ceux qui vont cultiver les beurrés blancs tardifs ou précoces. Ils vont organiser des concours, qui vont être l'occasion de fêtes d'ailleurs, hein, je pourrais y avoir toujours une fête quelque part. Et à travers ça, leur technique, et bien entendu les poires, vont s'améliorer. Je le dirais comme ça, chez Fourier, le jardin permet de cultiver des différences de plus en plus fines. Il permet d'affiner nos goûts et en même temps la production. Et alors chez Fourier, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que plus nos goûts s'affinent, plus on affine la production, plus la production peut s'affiner, plus nos goûts eux-mêmes s'affinent. Donc on voit qu'il y a une évolution du plaisir et du bonheur de profiter des produits des jardins. Alors, peut-être que l'anthropologie contemporaine peut nous permettre de caractériser cette finesse propre à ceux qui habiteront l'harmonie d'après Fourier. J'y reviens. Dieu, alors il faut, et peut-être, excusez-moi, là j'ai sapé peut-être un peu vite, il faut, pour bien comprendre Fourier, revenir à son providentialisme, et bien entendu, vous l'aurez compris, en pensant à l'anthropologie contemporaine, je pense à Descola, bien sûr. Alors, quelle cosmogonie, quelle cosmologie propose Fourier? Alors, Dieu est garant de l'ordre. Dieu est garant de l'ordre, mais cependant, la création, ce globe, nous apparaît comme un enfer anticipé. Il grouille de reptiles venimeux, de punaises, il est infesté de maladies, de poisons. Et d'une certaine manière, la création semble un naufrage. Mais attention, ce n'est pas la nature qui est mauvaise. La nature elle-même, elle souffre. Elle souffre de notre civilisation. Et du coup, si la nature souffre, c'est parce qu'elle n'est pas un gisement de ressources qui est posé devant nous. C'est un ensemble plus ou moins cohérent d'associés. La nature est un ensemble plus ou moins cohérent d'associés. Et la culture sociétaire de Fourier intègre tous les produits de la nature, nos fruits, nos légumes sont nos partenaires. Il faut veiller à la qualité de nos liens avec ses associés. Alors, du coup, Fourier, sur la base de cette intuition, écrit dès 1808 des choses qui sonnent très modernes. Par exemple, il écrit ça. L'intempérie marche à pas de géant et détruit les climatures par suite du régime civilisé qui anéantit les forêts, les sources et les montagnes fertiles. Il écrit ça en 1808, on pourrait croire que c'est écrit aujourd'hui. Alors, attention, ce n'est pas seulement une question technique, c'est une question sociale et même morale. Et c'est là qu'on rejoint tout à fait ce que Descola nous raconte sur certaines formes de composition du monde. Fourier écrit, il est clair que la détérioration des climatures va de niveau avec la dépravation des sociétés. L'état du monde, finalement, dépend des passions qui nous lient entre nous et qui nous lient au monde. La nature, finalement, est dans la société et non face à elle. C'est ce que traduit bien l'analogisme de Fourier. Alors Fourier, tout au long de son œuvre, développe des tas d'analogies. Il dit « Tout, depuis les atomes jusqu'aux astres, forme tableau des propriétés des passions humaines. Tout parle. » Alors, que nous apprend un chou, par exemple? Bah oui, on peut réfléchir sur un chou. Eh bien, un chou, c'est un emblème de l'amour contrarié, de l'amour masqué et qui résiste. Que nous apprend la crête d'un chardonneret? De qui est-il, est-elle l'analogie? Eh bien, d'un enfant du peuple, industrieux, le plumage gris, et puis de son ambition, la tête rouge. Et donc Fourier, il essaye de lire la nature en disant ben, la nature correspond, répond, exprime nos sentiments, nos passions, etc. Alors du coup, on ne peut pas manquer de penser à cette forme de composition du monde que Descola désigne quand il désigne l'analogisme. Deux critères peuvent être retenus. Fractionner les existants pour produire d'infimes différences. On l'a vu, hein, à propos, j'ai évoqué les poires, etc. Et puis, comme on a tout fractionné, tout divisé, etc., on va recomposer un réseau d'identification, de ressemblance, à partir de ces différences, pour tisser des réseaux. Donc on va fragmenter des choses qui peuvent se ressembler, et puis finalement on va les relier. Et c'est bien la démarche de Fourier. C'est bien sa volonté de trouver des subtilités infinitésimales dans le goût, dans la pratique, dans l'observation des choses, etc. De ce point de vue, on pourrait dire que les jardins de Fourier qui entourent le phalanstère sont en quelque sorte post-naturalistes. Ils sont par-delà l'opposition entre nature et culture. Et c'est extrêmement intéressant de constater que, se tenant par-delà nature et culture, les harmoniens qui cultivent ces jardins ressemblent sans doute à ces analogistes conséquents que Descola appelle de ses voeux. Et partant de là, on peut se demander comment les rejoindre. Puisque depuis deux siècles, ils nous font signe et ils nous attendent. Voilà.
Merci.